Chers collègues, chers amis, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de ce colloque pour leur invitation qui m'a donné l'occasion non seulement de relire 30 ans plus tard l'homme neuronal, mais de me replonger 30 ans plus tôt dans le climat des années de sa publication. C'est ce contexte que je voudrais exposer dans cette communication. Au début des années 1980, quand l'homme neuronal paraît, la biologie moléculaire, nous l'avons vu tout à l'heure, est reine. Ses prétentions hégémoniques semblent menacer tous les autres secteurs des sciences biologiques. Les sciences du système nerveux central, en particulier, sont quant à elles dispersées. Les sciences du système nerveux central sont quant à elles encore dispersées, c'est un vieil héritage académique, en neurophysiologie, neuroanatomie, neuroembryologie, neuropathologie, etc. Et ce ne sera qu'à partir des années 1970 que l'on regroupera sous le nom de neurosciences toutes ces disciplines qui, jusque-là, étaient représentées dans autant de sociétés savantes autonomes, la plupart du temps cloisonnée de façon étanche. Le premier congrès de Society for Neuroscience a eu lieu à Washington en 1971, suivi quelques années plus tard, en 1974 à Munich, si mes souvenirs sont bons, par une association européenne des neurosciences et ses congrès annuels. En France, un colloque « Bilan et perspectives des neurosciences » se tient au Touquet en octobre 1980, à l'issue duquel la Société des neurosciences, qui est une société française, a été créée. Ce terme « neurosciences » sonne en français un peu comme un barbarisme. Il est néanmoins bien construit et il s'imposera alors définitivement. Ce ne sera qu'à la fin des années 1970, après le boom des sciences cognitives aux États-Unis, que l'expression « neurosciences cognitives » apparaîtra inventé par Michael Gazzaniga, le neurologue du cerveau divisé, et George Miller, le psychologue du chiffre magique 7 plus ou moins 2. Dans notre pays, c'est en 1983 que paraîtra l'homme neuronal. Avec son titre provocateur, il est l'un des premiers ouvrages grand public en français à avoir l'ambition de dresser le portrait le plus exhaustif des neurosciences, depuis les neurosciences moléculaires jusqu'aux neurosciences cognitives, et d'en esquisser les prétentions. Cet ouvrage, en effet, ou plus exactement ce que son titre révèle, ou peut-être même revendique, n'a pas manqué de soulever, tant en France à partir de sa parution, qu'aux États-Unis, 2 ans plus tard, à partir de sa publication en anglais, de nombreuses critiques passionnées. Les plus nombreuses sont favorables, quelques-unes critiques, certaines hostiles, rarement injurieuses, à la limite de la calomnie, mais il y en a eu. Je voudrais, dans cette brève communication, insister tout d'abord sur les qualités intrinsèques du livre lui-même. Il ne s'agit pas d'un livre de vulgarisation, même s'il est accessible, par sa limpidité, à un grand nombre, et même si son succès de librairie pourrait le faire accroire. C'est d'abord une synthèse des travaux neuroscientifiques les plus récents, répondant aux critères les plus exigeants des spécialistes. À ma connaissance, aucune critique n'a jamais porté sur l'exactitude des résultats scientifiques rapportés. Je l'ai moi-même recommandé très chaleureusement à mes étudiants pendant de très nombreuses années, et aujourd'hui encore, l'ayant relu à l'occasion de ce colloque, je reste impressionné par sa justesse. Pas étonnant qu'il ait eu un tel retentissement, cité plus de 1000 fois, ce qui est un record pour un ouvrage scientifique de ce type. Mais c'est aussi bien plus qu'une synthèse, puisqu'il a une ambition anthropologique et philosophique plus large, invitant à une nouvelle vision de l'homme. Ce sera sur cet aspect, ce changement de paradigme, que la plupart des critiques porteront. D'autres intervenants aborderont cet aspect un peu plus tard dans la journée. Pour ma part, je n'en dirai rien, faute de temps. Je voudrais, sans retracer l'histoire des neurosciences en général et des neurosciences cognitives en particulier, ce qui nous entraînerait bien trop loin, rappeler quelques éléments du contexte scientifique et plus largement du contexte culturel et idéologique de ces premières années de la décennie 80. Cet élargissement, au-delà du domaine strictement neuroscientifique, s'impose compte tenu des implications philosophiques de l'ouvrage. Aussi, permettez-moi un détour par les années 1970. Dans le sillage des critiques post-68ardes, ces années sont imprégnées d'une certaine suspicion à l'égard des sciences en général et marquées d'un certain scepticisme quant aux bénéfices qu'on pourrait en tirer. Pourtant, cette attitude n'est point comme auparavant prise par ignorance. Ce ne sont plus les ignares ni les croyants intégristes réactionnaires qui se méfient de la science, mais au contraire des intellectuels, ceux irrités par le prix Nobel attribué en 1973 à Konrad Lorenz, soupçonné de sympathie avec le nazisme, ceux qui se réunissent autour de Jean-Marc Lévy-Leblond et de sa revue éphémère à la mort programmée, Impasse Science, ceux qui imaginaient une science citoyenne, lisez Ivan Illich et René Dumont, ceux qui, traumatisés par le souvenir récent de la guerre d'Algérie, refusaient que leur recherche fût financée par la DRME, la Direction des recherches et des moyens d'essai de l'armée. Alain Touraine parlera en 1980 de critique progressiste du progrès. Il y a comme une mise en cause des Lumières et de sa confiance dans l'équation inexorable progrès scientifique et technique égale progrès humain et moral. On pensait plutôt, et je reprends ici une phrase d'un mémorialiste célèbre, que la perception du bien et du mal s'obscurcit à mesure que l'intelligence s'éclaire, que la conscience se rétrécit à mesure que les idées s'élargissent. Mais revenons à nos moutons, au plus près du contexte scientifique dans lequel l'homme neuronal est publié et que Michel Morange a déjà évoqué tout à l'heure. Fin des années 70, début des années 80, on assiste non seulement au triomphe de la biologie moléculaire et de la génétique moléculaire, nous l'avons déjà dit et Michel a beaucoup insisté là-dessus, mais aussi au début de l'imagerie cérébrale in vivo qui va bouleverser profondément les neurosciences cognitives naissantes. Mais ce n'est pas dans les domaines de l'imagerie cérébrale in vivo, de sa naissance, puis de sa véritable explosion, que je décrirai le contexte dans lequel l'homme neuronal s'inscrit en ces débuts des années 80. D'autres intervenants, au cours de ces deux journées, le feront bien mieux que je ne suis en mesure de le faire moi-même. C'est dans celui des sciences de la vision, domaine qui m'est plus familier, que je voudrais esquisser le climat de cette inscription. À mon avis, et compte tenu de mes connaissances, mais bien entendu chacun voit midi à sa porte, c'est dans les sciences de la vision qu'est apparu ce que j'appellerais le premier syncrétisme psycho-éto-neuro-biologique, annonciateur de quelques-unes des thèses les plus fortes de l'homme neuronal. Horace Barlow, neurobiologiste britannique et arrière-petit-fils de Charles Darwin, donne un séminaire à Cambridge, en Grande-Bretagne, en 1952, au titre hautement révélateur et, à mon sens, bien plus provocateur que celui d'homme neuronal. The Psychology of the Frog's Retina, la psychologie de la rétine de grenouille. Il faut le faire, il faut oser. Étudiant les réponses électriques des cellules rétiniennes isolées de la grenouille à des stimulations visuelles ponctuelles, il avance l'idée que certaines de ces cellules, je le cite dans ma traduction, devaient être considérées non comme initiant la sensation ou la perception, mais comme donnant des ordres pour exécuter des réponses d'orientation et de capture, c'est-à-dire des comportements finalisés. Dans un article publié un an plus tard, en 1953, dans le Journal of Physiology de Londres, avec un titre bien plus sage que celui de son séminaire, « Summation and Inhibition in the Frog's Retina », Horace Barlow écrit, je traduis, « Une fibre du nerf optique est la voie finale commune », c'est une expression sherringtonienne s'il en est, d'une activité évoquée dans une région considérable de la rétine et, si une intégration finalisée a eu lieu, il doit être possible de la relier au comportement visuel de la grenouille. Je continue la citation. Selon Yerkes, en 1903, Yerkes est un psychologue américain, un psychologue comparatiste américain du début du XXe siècle. Selon Yerkes, la grenouille utilise ses yeux essentiellement pour se nourrir, pour également fuir de larges objets en mouvement. Pour se nourrir, son attention est attirée, c'est toujours Barlow qui parle, par la proie dont elle s'approche et pour finir, la frappe. Il continue. N'importe quel petit objet en mouvement évoquera ce comportement et il n'y a aucune indication de quelque discrimination de forme que ce soit. En fait, les cellules on-off, les cellules on sont celles qui répondent à l'établissement de l'éclairement, les cellules off, celles qui répondent à la cessation de l'éclairement, les cellules on-off semblent posséder l'ensemble des mécanismes discriminatoires nécessaires pour rendre compte de ce comportement relativement simple. Et c'est là où ça devient intéressant. Il est difficile d'éviter la conclusion que les cellules on-off sont accordées à ce stimulus et agissent comme des détecteurs de mouches. Fin de cette longue citation. Le mot est dit, détecteur de mouches, fly detectors. Les cellules ganglionnaires reconnaissent les mouches, plus exactement des proies, puisqu'un bout de laine agité devant son nez fait l'affaire. Ces détecteurs de mouches vont avoir une très belle carrière. Pour Barlow, les stimuli sensoriels pertinents sont des mots de passe qui servent de facteurs de libération, de releasing factors, comme les appellent les éthologistes, qui permettent le déclenchement d'une réponse spécifique adaptée, d'où le terme de trigger feature, caractéristique de déclenchement, que les neurophysiologistes, en particulier les neurophysiologistes du système visuel, utiliseront pour désigner le fait qu'un neurone visuel, quel que soit l'endroit où il est enregistré, dans la rétine ou dans le cortex cérébral, indique sa préférence pour un certain type de stimulus visuel par une augmentation de sa décharge d'influx. Cette importante notion est au cœur d'un travail que je considère personnellement, mais c'est mon biais, comme fondateur des neurosciences cognitives. Pourquoi ? Parce que d'abord réalisé au sein d'un laboratoire de génie électronique et non pas d'un laboratoire de biologie, au MIT, par un ingénieur en bioélectronique, Jerry Letwin, un psychophysiologiste et philosophe chilien, Humberto Maturana, un neurophysiologiste, philosophe et psychologue, fondateur de la Société américaine de cybernétique, Warren McCulloch, et un logicien, Walter Pitts. Ce travail est réalisé par un attelage qui caractérise la pluridisciplinarité propre aux sciences cognitives, encore dans les limbes. Il est publié en 1959 avec un titre plein d'humour qui rappelle l'humour de Barlow, « What the frog's eye tells the frog's brain », ce que l'œil de la grenouille dit au cerveau de la grenouille. En fait, cet article aurait pu s'appeler « La grenouille neuronale ». Je ne résiste pas au plaisir de résumer l'essentiel. Dans cet article, les auteurs analysent les décharges d'influx dans les fibres isolées du nerf optique de la grenouille dans un environnement naturel, enfin aussi naturel que possible, et recherchent les caractéristiques de leur déclenchement. Ils distinguent quatre catégories de réponses, chacune accordée à un type particulier de l'illumination locale sur la rétine. Un petit objet sombre sur fond clair, animé d'un mouvement rapide. Une forme complexe avec un déplacement lent. Un segment rectiligne également en mouvement. Et enfin, l'obscurcissement progressif d'une large partie du champ visuel. Plus tard, ils en décriront deux ou trois autres catégories, mais ce n'est pas très important pour notre propos aujourd'hui. Ces catégories sont à l'origine de quatre canaux séparés parallèles qui se distribuent dans quatre couches distinctes et superposées du toit optique, qui est leur site de terminaison chez cette espèce. Elles y dessinent quatre cartes du champ visuel. Ces cartes sont enregistrées les unes par rapport aux autres. Et cet arrangement structural qui est très finement analysé, et ce n'est pas lieu ici d'aller plus avant dans la description de cette expérience, je dirais seulement que chaque catégorie, chacune de ces quatre catégories, va déclencher un type particulier de comportement. En gros, le petit objet animé d'un mouvement rapide déclenche sa capture. L'obscurcissement, que ce soit par un bord convexe ou par l'obscurcissement progressif du champ de vision, la fuite. La conclusion importante de ce travail est qu'il établit de façon convaincante que, je cite, « l'œil parle au cerveau dans un langage hautement organisé et interprété, au lieu de simplement transmettre une copie plus ou moins fidèle de la distribution de la lumière sur les récepteurs ». Alors qu'en 1953, à Cambridge, en Grande-Bretagne, Horace Barlow ouvrait un nouveau chapitre des neurosciences de la vision, aux États-Unis, à Baltimore, Steve Kuffler, neurobiologiste américain d'origine hongroise, publiait cette même année 1953 un article au titre strictement physiologique, neutre, dénué de toute référence quelconque au niveau comportemental ou psychologique. « Discharge Patterns and Functional Organization of Mammalian Retina ». On est loin, semble-t-il, de la psychologie de la rétine, chère à Barlow. Peut-être pas si loin que ça, nous le verrons. Steve Kuffler a eu la main heureuse dans le choix de son matériel d'expérience. Un mammifère, le chat. En effet, chez les mammifères, contrairement aux batraciens, modèle de Barlow, les fibres optiques répondent à des stimulations visuelles ponctuelles, soit à « on », l'établissement, soit à « off », la cessation du stimulus lumineux, selon l'emplacement exact du spot lumineux dans une zone limitée de la surface rétinienne. Cette zone, Kuffler l'appelle le champ récepteur, d'un concept qu'il a hérité de la physiologie et de la psychologie de la sensibilité cutanée. Ces zones sont grossièrement circulaires, concentriques et antagonistes, de telle sorte que la stimulation de l'une est inhibée par la stimulation de l'autre. En d'autres termes, les cellules ganglionnaires de la rétine de ce mammifère mesurent un contraste local. Elle ne retiendra de l'illumination de son champ récepteur que la différence algébrique dans l'illumination de son centre par rapport à celle de son pourtour. Elle ne détecte donc pas la présence d'un spot lumineux à un point donné sur un fond de l'œil. Elle calcule le contraste lumineux présent sur une zone circonscrite de la rétine, sur son champ récepteur, et c'est le résultat de ce calcul qui est adressé au cerveau par les fibres du nerf optique. Cette découverte, à mon sens fondamentale, va entraîner un grand changement paradigmatique. Avec les travaux de Barlow, de Ledwin, de Kuffler et de quelques autres, l'idée s'impose qu'il existe un traitement rétinien très sophistiqué et qui invite à penser qu'il sera poursuivi et même approfondi dans des zones cérébrales plus centrales, notamment au niveau du cortex visuel primaire. En 1959, Steve Kuffler quitte le Wilmer Institute de l'université Johns Hopkins de Baltimore pour installer son équipe dans le département de neurophysiologie de Harvard Medical School, à Cambridge, mais Cambridge, Massachusetts cette fois-ci. Il amène avec lui les deux collaborateurs qu'il a récemment recrutés, David Hubel et Thorsten Wiesel, qu'il engage à étudier l'activité des neurones du cortex visuel primaire, et cela dans l'esprit avec lequel il avait lui-même étudié les cellules ganglionnaires de la rétine, c'est-à-dire en utilisant des stimulations visuelles ponctuelles appliquées en divers points de leur champ récepteur, de façon à déterminer l'organisation fonctionnelle de ce champ récepteur. Débute alors pour Hubel et Wiesel une période marquée par de remarquables travaux, conduits d'abord chez le chat, puis chez le singe, échelonnés de 1959 à 1997, et qui leur valent un prix Nobel de médecine qu'ils partageront en 1981 avec Roger Sperry. Hubel et Wiesel sont bien cités dans l'homme neuronal, mais curieusement, ni Barlow ni Kuffler, plus exactement le Kuffler de la rétine et non le Kuffler des récepteurs cholinergiques et qui, lui, est très bien cité dans L'Homme de Renal, ne le sont pas davantage que David Marr, dont le livre posthume de 1982, Vision, propose une approche théorique de la vision qui sera tellement influente sur le développement de l'ensemble des neurosciences cognitives qui deviendront dès lors, chez la plupart des chercheurs, computationnelles. En 1982, contemporain toujours de L'Homme neuronal, en tout cas de sa gestation, Mortimer Mishkin et Leslie Ungerleider à l'Institut Johns Hopkins de Baltimore mettent en évidence l'existence d'une dualité dans le traitement cortical des informations visuelles. Ils distinguent deux routes séparées le long desquelles, d'une part, les aspects spatiaux, d'autre part, les aspects reconnaissants de forme de la perception visuelle seront élaborés séparément par des aires cérébrales distinctes, respectivement pariétales et temporales. Dans ce travail, qui est un travail pionnier de neuropsychologie expérimentale, le projet qui anime L'Homme neuronal, faire tomber les barrières séparant le neural du mental, est bien à l'œuvre. Je considère les idées et les expériences de microphysiologie rétinienne de Barlow, de Ledwin, de Kuffler, de sa descendante, de Hubel et Wiesel, la neuropsychologie expérimentale de Ungerleider et Mishkin, l'approche intelligence artificielle de David Marr, non seulement comme ayant ouvert de grands chapitres dans les neurosciences de la vision proprement dite, mais aussi comme ayant tracé en quelque sorte le chemin qui mène à l'homme neuronal, en établissant solidement le contexte scientifique dans lequel celui-ci va pouvoir naître, et dont la caractéristique majeure est la confiance que tous ces travaux témoignent et qu'il est possible et légitime de parler du mental en décrivant du neural. Quand Horace Barlow parle de détecteurs de mouches qui deviendront par la suite des détecteurs de Volkswagen Jaune ou des détecteurs de grammaire, dans une odyssée riche et passionnante, il utilise un langage psychologique pour décrire une opération neurologique. Cette importation directe implique bien, semble-t-il, que la barrière séparant le mental du neurologique est levée. Abolition d'une frontière, c'est le mot d'ordre proclamé par l'homme neuronal. Pourtant, aucune de ces recherches n'est mentionnée et on cherchera en vain ses auteurs dans la bibliographie de l'homme neuronal. On doit s'interroger sur un tel silence. Je ne doute pas qu'il soit légitime, on s'en expliquera, mais il résonne étrangement fort à mes propres oreilles. Venons-en pour conclure à la postérité de l'homme neuronal, d'abord dans notre pays. Dans les années 1980, les sciences cognitives, après de spectaculaires développements aux États-Unis, entament leur brillante carrière dans notre pays. On attend beaucoup des fertilisations croisées entre biologie, mathématiques, sciences physiques, sciences humaines. C'est l'époque où se multiplient, au CNRS, à l'INSERM, au ministère de la Recherche, des comités chargés de soutenir des projets visant à rapprocher les sciences physiques, notamment la science physique, la physique statistique, l'informatique, notamment l'IA, les mathématiques, la psychologie, notamment la psycholinguistique, et la philosophie, notamment la philosophy of mind anglo-saxonne, des sciences biologiques et au premier chef desquelles les neurosciences. L'homme neuronal a joué un rôle éminent dans ce mouvement. Cet ouvrage est, et c'est là ma conviction, à l'origine de la création d'une fondation que beaucoup d'entre vous connaissent, la Fondation Ficen. Celle-ci, reconnue d'utilité publique par décret du 21 mars 1979, a joué un rôle essentiel dans le développement des sciences cognitives et notamment des neurosciences cognitives. Jean-Pierre Changeux en a été le principal artisan et le premier président de son conseil scientifique, poste qu'il occupera pendant de plus de 10 ans. Cette fondation, et je cite ici ses statuts, vous allez voir pourquoi, a pour objectif de promouvoir sous toutes ses formes, je pense que Jean-Pierre le connaît par cœur, de toutes ses formes, l'analyse scientifique des mécanismes logiques du comportement animal et humain et de leur développement ontogénétique et phylogénétique. La Fondation favorise toutes les recherches relatives aux capacités de raisonner et plus largement aux processus cognitifs chez les animaux et chez l'homme ainsi qu'aux fondements biologiques et culturels de ces processus. Ne croirait-on pas lire un quatrième de couverture de l'homme neuronal ? N'est-ce pas là l'ambition affichée de cet ouvrage ? Quant à déterminer son impact direct sur des programmes de recherche, c'est une tâche très difficile, car l'homme neuronal est avant tout, nous l'avons déjà dit, un ouvrage de synthèse. Son influence s'exercera sur les esprits des chercheurs, bien plus que sur leur protocole de recherche. Pourtant, je connais au moins un exemple d'influence directe, le mien. Mon propre travail expérimental a été en effet fortement marqué par une des idées maîtresses de l'homme neuronal, celle concernant, on en a déjà parlé, l'épigénèse neuronale. On connaît les développements dans son chapitre 7 de la théorie de la stabilisation sélective des circuits neuroniques par l'activité spontanée ou provoquée. Je dirais seulement que cette théorie était connue avant même la publication de l'homme neuronal, puisqu'elle a été publiée dans une prestigieuse revue scientifique une dizaine d'années plus tôt, le 1er octobre 1973, dans les Proceedings of the National Academy of Science, les PNAS, et qu'elle avait été discutée en 1972 dans un séminaire au Collège de France mené par Jean-Pierre, Antoine Danchin et Philippe Courrèges, les auteurs du papier, auquel participaient également Gabriel Ruget et moi-même. Cette théorie a guidé mes propres travaux expérimentaux, dont je ne parlerai pas, puisque je ne suis pas ici, pour en parler. Je voudrais simplement souligner à quel point il a été influencé, mon travail, par certaines des idées majeures de l'homme neuronal. Je ne serais pas étonné qu'il en aille de même pour de nombreux autres chercheurs, mais bien peu le reconnaissent. Au niveau international, l'homme neuronal s'inscrit dans un courant théorique important qui place la sélection neuronale au centre de la réflexion sur leur cerveau dans ses relations avec les compétences et les performances cognitives. Gérald Edelman a également proposé une théorie assez voisine de celle de Jean-Pierre dans un ouvrage publié en 1987, Neural Darwinism, The Theory of Neural Group Selection. Cet ouvrage, grand public, avait été précédé en 1978 d'un plus petit ouvrage, plus confidentiel, mais connu toutefois des neurobiologistes, The Mindful Brain, Cortical Organization and the Group Selective Theory of Higher Brain Function, qui explicitait déjà l'idée d'un darwinisme neuronal. La sélection neuronale était sans doute dans l'air du temps, malgré un air de famille entre les deux théories, celle de Gérald Edelman et celle de Jean-Pierre Changeux, de nombreuses différences existent. Il est hors de question de les examiner ici maintenant. Remarquons seulement que celle de Jean-Pierre s'appuie moins sur des raisonnements abstraits que sur des observations neurobiologiques précises. Il serait illusoire et quelque peu simplificateur de vouloir parler de l'impact de l'homme neuronal sans discuter en détail les autres contributions de Jean-Pierre Changeux, notamment l'homme de vérité, qui, deux décennies plus tard, amplifiera son projet, je cite, « mettre en relation, si possible, de façon causale, l'organisation anatomique et les états d'activité de notre cerveau avec les fonctions cognitives par excellence, qui sont l'acquisition de la connaissance et l'évaluation de sa vérité. » Ce programme de 2002 fait écho à celui de 1983 de l'homme neuronal qui disait déjà « détruire les barrières qui séparent le neural du mental et construire une passerelle, aussi fragile soit-elle, permettant de passer de l'un à l'autre ». Mais il faut ici donner la citation complète. En effet, Jean-Pierre Changeux ajoute « ce projet comporte des risques et peut se contester », anticipant de la sorte bien des discussions à venir. Mais il faudra un autre colloque pour les aborder. Je vous remercie.